Dans la chaussure, bonjour. Aujourd'hui, à propos d'enfance et des objets culturels mis à disposition des enfants, Caroline Guichard se joint à nous pour présenter un spectacle dans lequel le vent tient la part belle. Caroline, bonjour.
Bonjour, en effet, je vous propose d'aller découvrir la nouvelle création du compositeur Pierre Sauvageau. Chant harmonique se pose sur la pointe de Beaunieu à Martigues jusqu'au 6 juin pour ses toutes premières représentations. Pierre Sauvageau viendra nous rejoindre en fin d'émission.
Au cœur de l'émission, Nathalie Guimard pour Photokino propose de retrouver l'univers féerique de Jacques Tati. Bonjour Nathalie.
Bonjour Marie-Dominique. Et oui, de l'humour, du bon air, un peu de sport, une bonne dose de gaffe, ce sont les vacances de Monsieur Hulot.
Et tout de suite, rencontre avec Olivier Douzou pour évoquer son parcours d'éditeur de collection, d'auteur d'albums réjouissants et surtout faire intrusion dans sa représentation de l'enfance et de sa vitalité. Il a toujours dessiné. Il est architecte de formation. Il a œuvré en tant que graphiste, puis il a été directeur de collection aux éditions du Rouergue de 1994 à 2001. Période pendant laquelle il a joué le rôle de découvreur d'auteurs au gré des rencontres qu'il a choisies en toute liberté. Détail qui a son importance. Période aussi pendant laquelle il a publié des albums dont il est auteur et illustrateur en toute complicité. Autre détail qui a son importance. En tout, il est à l'origine de plus d'une soixantaine d'albums jeunesse, remarqués pour leur côté novateur dans le paysage des livres pour enfants. Le format carré, c'est grâce à lui. Mais surtout, le contenu de ses livres et des auteurs qu'il a révélés ont contribué à poser une marque de fabrique dans les années 90, à jamais. Aujourd'hui, au fil de la reconnaissance, du réseau d'amis et des affinités qu'il s'est tissé, il est toujours un auteur aussi libre et créatif. Ses derniers titres ont paru aux éditions Memo, notamment aux éditions de l'Ampoule, et il est aussi scénographe. J'ai le grand plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Olivier Douzou, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accorder ce temps d'échange en vue de vous entendre sur ce qui vous anime, le pourquoi, le comment vous créez des albums jeunesse avec des textes et des images si originaux, truffés de bonnes surprises, de tendresse, de poésie, d'humour, et qui surtout, me semble-t-il, révèle un rapport très fort et affectueux à l'enfance. Alors, peut-être que ma question est d'emblée un peu trop grande. J'avais envie de vous demander qu'est-ce que l'enfance. Mais Olivier Douzou, je vous propose de laisser courir cette question en filigrane et de chercher quelques indices dans votre expérience de vie, votre parcours et bien entendu quelques-uns de vos livres. Alors, il en est un qui est tout indiqué. J'avais envie de commencer par Play, qui est sorti en 2007 aux éditions Memo à l'occasion du Salon du Livre Jeunesse de Montreuil, édition pour laquelle vous étiez scénographe, vous avez monté une exposition au titre éponyme avec des complices depuis les éditions du Rouergue, avec Frédéric Bertrand, Nathalie Fortier, alors attention je risque de l'écorcher, Jochen Gerner. José Parando, etc. et j'en oublie, autour du thème du jeu. Et donc, pour revenir à votre livre, dans Play, on entre de plein pied dans... ce qui a constitué votre enfance, l'univers des jouets et des jeux. C'est une sorte d'inventaire en mots et en images de vos jouets rassemblés que vous avez daigné ranger dans un livre. Et j'y vois là un indice prépondérant dans votre travail artistique. Les jouets et le jeu, ce sont les pièces maîtresses de l'enfance, Olivier Douzou.
En fait, cette exposition m'a beaucoup interrogé parce que moi, c'était une carte blanche que me proposait le Salon du Livre de Montreuil. Et j'avais vraiment envie de situer le livre dans, dans le monde du jeu, en fait, pour enfants, avec ses propres règles du jeu, ses propres codes de lecture et ses propres fonctionnements. Donc moi, c'est vrai que c'est un peu curieux, en fait, cet événement, parce que Sylvie Vassallo, qui m'a confié cette exposition, m'a fait faire un travail artistique dessus, de direction artistique et de scénographe, mais elle m'a demandé si j'avais jamais écrit sur le jeu, et là, je lui ai dit, mais si, en fait, donc ça, c'était en cours de montage d'expo, j'ai un livre sur lequel je travaille depuis 5-6 ans, quoi. S'appelait Play à l'époque, mm-hmm. qui n'était absolument pas abouti. C'est l'exposition qui m'a fait accoucher de ce livre qui était destiné finalement à être travaillé et retravaillé en permanence. Mm-hmm. Donc le jeu, pour moi, c'est vrai qu'il est présent, et c'est pour moi c'est vraiment le souvenir de l'enfance. Hein. Mm-hmm. L'enfance pour moi est liée au jeu de la découverte, au jeu de même de découverte des règles du jeu, le jeu de l'apprentissage. Il me semble que quand on est enfant, on joue, on doit jouer pour découvrir tout ce qu'on a à découvrir.
Et on simule le futur adulte qu'on va pouvoir être à travers les jeux.
Oui, parce que moi, en fait, moi, j'ai abordé cet ouvrage-là et l'expo comme un jeu de construction, en fait. Et je pense que le jeu, même de construction, participe forcément à la construction de l'individu. Donc moi, c'est vrai que c'est un inventaire, mais en même temps, je me dis, en regardant tous les jeux que j'ai redessinés ou redécouverts, mon jeu, si vous voulez, c'était de les réveiller à nouveau, de réveiller en moi l'enfant. C'est vrai que je me dis que le trait commun entre mon enfance et mon activité, c'est le jeu.
D'accord.
J'ai envie de jouer. Et quand je fais des livres, j'invente des règles du jeu aussi. J'invente de nouveaux jeux, et c'est pour ça, moi, c'est pour ça que le livre me plaît tant, quoi. Cet univers d'invention et de nouveautés.
Alors, si vous réveillez le jeu, le plaisir du jeu en vous, moi, j'ai l'impression que c'est un livre qui parle à toute une génération de parents. J'ai l'impression que vous réveillez en nous aussi nos propres souvenirs de jeu. Par exemple, mettre des cartons sur les rayons du vélo pour simuler le bruit du moteur. Les petites voitures, Majorette et nos rêves, par exemple. La voiture à pédales, les Lego, les mécanos, des jeux qui encore courent aujourd'hui. Les cartons du loto avec les haricots. Oui, ça, j'avais oublié. Le jeu des sept familles, les mille bornes, les circuits. Et mine de rien, vous jouez donc avec notre perception d'adulte, la perception des lecteurs, adultes qui, nous aussi, on a aussi acheté certains de ces jeux-là à nos enfants. On a aussi perpétué ça. Donc ce sont des clins d'œil à notre propre enfance, et ça nous propose de partager ça aussi avec les enfants. Donc ce sont des livres qui finalement constituent un espace de rencontre entre les parents et les enfants.
Les livres, les albums en général.
Oui, d'une manière générale. Bon, plus particulièrement celui-ci par rapport au jeu. Mais oui, d'une manière générale, quelle est votre conception du livre ?
Celui-là, je ne pense pas qu'il... Enfin, peut-être les enfants peuvent s'y reconnaître, mais si vous voulez, ce livre Play, il était fait juste pour montrer tout ce qui se passait entre l'écart entre l'adulte et l'enfant. Par exemple, quand vous faites référence à beaucoup de jeux, moi, ceux qui me viennent immédiatement à l'esprit, c'est le Monopoly qui donne des valeurs à des couleurs, et qui donne aussi des couleurs à des rues dans Paris, qui donne une forme à Paris. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont relativement persistantes. Et je pense que c'est plus voir comment montrer avec ce livre-là comment finalement tout ça c'est persistant, et toute cette mécanique du jeu a forcément encore aujourd'hui des traces, laisse encore aujourd'hui des traces dans notre manière de percevoir les formes, les couleurs, les odeurs, tout un univers de sensations. En ce qui concerne les albums, moi c'est évident aussi que j'ai toujours imaginé que c'était une zone de rencontre entre l'adulte et l'enfant. Ne serait-ce que parce que l'adulte choisit pour les enfants, et l'adulte aussi doit être mis en scène, parce que tout participe au jeu. C'est le jeu de découvrir, c'est le jeu de relire différemment un livre, c'est le jeu aussi, le jeu d'acteur de l'adulte et d'acteur de l'enfant qu'on met en scène. C'est des espaces qui mettent en scène, en fait, les lecteurs.
Alors, en même temps que ce livre Play, l'exposition donc qui a lieu à Montreuil révèle aussi un autre trait de vous, de votre démarche artistique, puisque c'était un rassemblement d'amis et de complices, des liens amicaux qui se sont tissés, et ce depuis votre rôle en tant que directeur de collection aux éditions du Rouergue. Donc au départ, juste pour faire un petit bond en arrière, comment les aviez-vous choisis? Comment aviez-vous travaillé? Comment avez-vous trouvé et eu envie de faire découvrir ces nouveaux auteurs à l'époque?
Là, c'était très simple. J'ai absolument fait aucune démarche pour aller rencontrer des gens. J'ai attendu qu'il y ait la mécanique traditionnelle de l'édition, c'est-à-dire qu'un auteur manifeste l'intérêt pour une maison d'édition et envie de faire un livre ici et pas ailleurs. Puis voilà, j'ai pas voulu prendre mon téléphone et contacter des gens comme Nathalie Fortier qui sont arrivés très tard aux éditions du Rouergue, mais dont je connaissais parfaitement le travail et avec qui j'avais envie de travailler. Ça s'est passé aussi avec Kitty Crowther, dont je connaissais parfaitement le travail, avec qui j'avais envie de travailler, mais qui m'a jamais envoyé de projet, donc qui a jamais eu de projet aux éditions du Rouergue. Donc voilà, après, c'est des rencontres, c'est des gens qui étaient enthousiastes et qui avaient envie de faire quelque chose de nouveau. Après, moi, je me rends compte avec la distance que chacun avait un petit quelque chose, avait quelque chose qui me correspondait aussi. C'est-à-dire que quand je travaillais avec Parondo, pour moi, c'était l'absurde que je pouvais utiliser un degré moindre dans mes ouvrages qu'il développait complètement, où Joran Garner avait un côté plus conceptuel, on va dire, qui était beaucoup plus poussé que moi. En fait, c'est des gens qui étaient complètement complémentaires. Et donc ça fait effectivement une petite famille comme ça. Christian Bolt, c'était plus bricoleur.
Oui.
Donc voilà, c'est des rencontres de gens, je crois, au bon moment. Et puis avec des gens qui m'envoyaient Christian Bolt, son manuscrit par exemple est arrivé par la poste. Linda Cora, c'est pareil. Après, d'autres gens m'envoyaient des images, des bouts d'histoire, des amorces de projets. Je travaillais avec eux après. La rencontre était faite, après je pouvais travailler avec eux.
Donc en fait, en même temps, ils vous ressemblent et ils sont complémentaires.
Oui, on se ressemble, on est un peu différents, mais en même temps, quand on fait une expo comme ça, intuitivement, ils ont chacun une partition qui est différente et qui complète la précédente et la suivante, quoi. Donc c'est pas par hasard, je crois. Je crois que c'était aussi une période, c'était aussi un espace dans l'édition qui était peut-être nécessaire, qui était attendu et qui présentait un intérêt pour les auteurs. Mais il y avait, je crois, 2000 projets qui arrivaient par an. Moi, je sélectionnais, enfin, je regardais, j'avais envie d'en faire qu'une dizaine. J'ai pas jamais fait une grande course au nombre de publications aussi par an. Donc voilà, il n'y avait pas énormément de place non plus.
Oui. Donc c'était au rythme des rencontres, un rythme absolument pas imposé. Les livres sortaient quand ils étaient mûrs, quand c'était le bon moment.
Voilà, oui. Jusqu'au moment où il y a eu beaucoup trop, à mon avis, de projets, de demandes de projets, d'édition. Moi, après, c'est vrai que mon départ du Rouergue, ça a été surtout... outre certains désaccords, c'était sur un peu ce formatage du livre. Et puis
cette pression
Ah ouais, ça devenait une pression. Et puis bon, moi aussi, j'avais l'impression que c'était en bout de cycle, parce que je voyais à l'époque revenir des projets qui ressemblaient à ceux d'autres auteurs. Et là, je me disais que quand on avait la deuxième couche, ça me tentait plus tellement, quoi.
Depuis, je le disais en introduction, une soixantaine d'ouvrages. Donc, vous avez débuté avec le gros succès Jojo Lamache, et puis ça en suivi Mono le Cyclope, Yo-Yo l'Ascenseur, et puis d'autres titres qui révèlent tout autant votre sensibilité au monde à partager avec des lecteurs. Donc, on n'a pas le temps de parler de tous. J'imagine que chaque ouvrage donc a sa petite histoire de naissance, son temps de gestation. Ce que j'avais envie juste de mettre peut-être un petit peu en avant, c'est tout de même, il y a des thèmes qui vous sont sensibles. Par exemple, j'aime bien le rapport d'échelle entre l'enfant et l'adulte, le rapport de taille, le temps, la météo. Par exemple, vous avez inventé la République du Vent. Si on vivait dans un pays qui s'appellerait la République du Vent, et alors là, votre imaginaire explose.
En fait, ça rejoint une question qu'on me pose souvent, c'est d'où vient l'inspiration ? J'en sais absolument rien.
Oui. Mais c'est une sensibilité poétique au monde, en fait. C'était un peu ça, que entre la taille, le temps, les saisons, la météo, les nuages, il y a ça dans vos livres. Il n'y a pas que ça, mais c'est une espèce de coussin, on va dire, de support, je trouve.
Ça, c'est, je pense que c'est un coussin qui a aussi les couleurs de la liberté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui fait qu'il y a une prise sur la météo, personne, sur le ciel et sur les nuages non plus. Et comme le livre, ça reste quand même des espaces très rares, incontrôlés, incontrôlables, et qui appartiennent à tout le monde et à personne. Donc je trouve que c'est, quand on fait un livre, on travaille avec ces ingrédients-là, mais qui sont plus intérieurs.
Mmh. D'accord.
C'est peut-être compliqué ce que je dis.
Oui, non, pas du tout, mais j'aime bien le lien avec la liberté aussi. C'est un de votre traits, je pense, de caractère et de manière de fonctionner, et qui du coup, permet tout à fait la créativité, quoi, tout simplement.
Ouais, c'est un moteur, la liberté, parce que ça permet l'inattendu, et quand on fait des livres, je pense que les gens, ils ont envie d'avoir quelque chose. Un espace qui est nouveau. Mmh. Je pense que c'est vrai pour les adultes, c'est vrai aussi pour les enfants. Ils ont envie de découvrir quelque chose qui n'existait pas avant et qui a un sens, en fait. Mmh. Il y a une raison d'exister aujourd'hui.
Et qui, du coup, invite à détourner le regard ou à aborder les choses d'une autre manière ou par un autre biais.
Voilà, c'est ça. On donne des angles.
Voilà.
C'est la magie du livre. C'est pour ça que moi, j'aime le livre. C'est déjà, on le voit une fois, on le reparcourt, et moi j'étais toujours quand même très admiratif du livre, surtout quand mes gamins prenaient toujours le même ouvrage, en connaissant parfaitement la fin, et faire comme en peinture ce qui s'appelle les néo-primitifs, qui font semblant d'oublier qu'ils ont...
Oui.
Ils savent.
Pour revivre l'émotion...
Pour revivre, c'est une émotion, en fait.
Olivier Douzou, je vous remercie beaucoup. Donc, vous l'aurez compris, un artiste à suivre de près. Merci beaucoup, Olivier Douzou, de nous avoir consacré ce temps de parole, et au plaisir.
Merci à vous.
Au revoir.
Un caillou dans la chaussure. Caillou dans la chaussure.
Cette interview a finalement pris beaucoup plus de temps que prévu. Je vous propose de prolonger son écoute sur le site de Radio Grenouille à la page Un caillou dans la chaussure.
Sur mon oreiller, dès que je ferme les paupières, je fais des trucs extraordinaires. J'ai pas le temps de m'ennuyer. Sur mon oreiller, chaque nuit je sauve le monde. Y'a plus un méchant à la ronde. Superman peut se rhabiller. Couché dans la plume, je dors comme une enclume. Mais mon cerveau fume et m'entraîne au loin voyager. Mon oreiller, sans fatiguer, je peux te faire plusieurs fois le tour de la terre avant d'aller me réveiller. Voyage en première classe, on m'invite dans des palaces, y'a jamais moyen de payer. Sur mon oreiller, partout où je vais, c'est la fête. Les filles que finissent en nuisette et veulent me raccompagner. Couché dans la plume, je dors comme une enclume, mais mon cerveau fume et m'entraîne au loin voyager. Sans fatiguer, je peux te faire plusieurs fois le tour de la terre avant d'aller me réveiller.
Après cette belle rencontre avec Olivier Douzou et ses amis, une autre valeur sûre à voir et à revoir en famille, le réjouissant film Les vacances de Monsieur Hulot de Jacques Tati. C'est Nathalie Guimard et le petit cinéma de Photokino qui nous emmènent. Et si on partait en vacances ? Au bord de la mer ? Bon, d'accord. Mais plutôt sur la côte atlantique, alors. Sur une plage de sable.
J'aime bien la plage. J'aime bien le sable. J'aime bien le sable. Tiens, ça te dirait ?
Quand 57 ans après, la plage qui servit de décor au film Les vacances de Monsieur Hulot n'a pas changé, ou presque. Je m'y suis promenée le week-end dernier, à Saint-Marc-sur-Mer, une petite ville balnéaire entre Saint-Nazaire et La Baule. Ce n'était pas encore l'été, les éclaircies alternaient avec les gouttes de pluie. Mais ça sentait déjà bon les vacances. Le 2 juin 2010, à 10h, faites donc votre valise et installez-vous dans la station balnéaire du cinéma Les Variétés sur la Canebière. Et partez en vacances avec Monsieur Hulot. Les vacances de Monsieur Hulot, c'est le dernier film de l'année proposé au petit cinéma par Photokino. Avant les grandes vacances.
Thank you.
À Paris, le jour des grands départs, c'est l'effervescence. Certains préfèrent voyager en train. Attention à ne pas se tromper de quai de gare. D'autres, plus sportifs, préfèrent le vélo. Et bien sûr, il y a aussi l'automobile. Les grosses cylindrées ou les petits tacos, comme l'auto de Monsieur Hulot. Bienvenue à Saint-Marc-sur-Mer, sa plage de sable, ses rochers, ses marais, ses cabines de plage si typiques et l'hôtel de la plage, où il fait bon se reposer après une journée au grand air. En lisant son journal, en jouant aux cartes ou en écoutant la radio, en attendant le repas. Mais quelle est cette huluberlue qui a encore laissé la porte ouverte? Et c'est à lui cette voiture qui pétarade? Oh, quelle allure ce grand échalas avec son drôle de chapeau et son pantalon trop court pour lui. Oh là là, et tout son attirail. Oh, quel maladroit. Pardon, à qui ai-je l'honneur?
Hulot.
Ah, Monsieur Hulot, bien sûr. Alias Jacques Tati lui-même. Réalisateur et acteur des vacances de Monsieur Hulot. Jacques Tati, le très grand réalisateur français, qui a fait des films sans équivalent. D'origine franco-russo-néerlando-italienne, son vrai nom est Jacques Tatischeff. Il quitta l'école avant le bac, et après avoir découvert ses talents comiques, il devint mime sportif. Avec ses 1m92, son côté pierrot lunaire, son corps dégingandé, ce fut le succès.
Ready? Let's start. 15. Oh, splendid. 30. 40. Game. That's the stuff. 40, love. Wonderful.
Mais enfin, c'est impossible. Le tennis, c'est pas ça.
Game.
Encore un.
Pour ses premiers rôles au cinéma, il jouera donc très naturellement le sportif burlesque. Pour ses propres films, il invente et joue le personnage du facteur cycliste. Pour le court-métrage « L'école des facteurs » en 1947, puis un peu avant son premier long-métrage « Jour de fête » sorti en 1949. Puis il invente le personnage du lot. Un chapeau mou, une pipe en bouche, une silhouette filiforme, une façon de marcher sur la pointe des pieds et les fesses en l'air. Monsieur Hulot qui partira tout d'abord en vacances avant que l'on ne le retrouve chez lui en banlieue de Paris pour le film « Mon oncle » en 1958. Ou en balade dans la ville moderne, c'est « Playtime » en 1967. À travers ces films, c'est l'évolution de la société française qui est dépeinte. Ces films semblent ne pas avoir d'âge.
Le petit cinéma.
Le cadrage, le son, le jeu des acteurs, du premier à l'arrière-plan, sont méticuleusement chorégraphiés. Les vacances de Monsieur Hulot est un feu d'artifice ininterrompu de gags orchestrés au millimètre. Tati, le tatillon, ne laisse jamais rien au hasard. Le son des vacances de Monsieur Hulot, par exemple, contribue autant que le jeu des acteurs à faire naître le rire. Dans la scène du restaurant, il y a bien sûr le comique des gestes de Hulot. Quand il tend le bras pour prendre le sel, par exemple, juste sous le nez de son voisin qui allait s'essuyer la bouche. Mais il y a les regards et les grimaces du patron, par exemple, aussi. Et beaucoup d'autres gags visuels. Mais il y a aussi les bangs de la porte battante et les litanies des serveurs.
Ça fera deux.
Un gigot palacio 8.
Il est là.
Et à suivre une escalope régine et du pain.
Trois plus pension.
C'est parti.
Un supplément mayonnaise au 4.
Autant pour moi.
Une demi-rosée au 6.
C'est noté.
Une badoine au compris.
Un biftex avec un 2 à point, saignant à bleu et du pain.
Ça marche.
Moule marinière.
Ça fait deux.
Enlevé.
Dans la tradition du cinéma burlesque, ce sont plutôt les corps qui parlent. Il y a très peu de dialogue en général dans les films de Tati. Les quelques phrases ou mots prononcés sont comme des sons ou des notes de musique. Et les mots des vacanciers, des vacances de Monsieur Hulot, sont comme un recueil méticuleux des expressions d'une certaine classe sociale, celle des vacanciers de l'époque, qui pouvaient aller au bord de la mer, à l'hôtel de la plage.
À la Bourse de Paris, 3% perpétuel, 62,30, plus 2. 3% amortissable, 99,10, inchangé. Et caisse autonome, 4,5%.
Oui, madame Vaillot, vous n'êtes pas faux. Au contraire, mais si, vous êtes très bien. Allons, allons, ça vous fera un souvenir, un instant.
Allô, Londres, ici Schmutz, vous avez vendu?
Mon dossier.
Oh, je suis content d'être arrivé, tu sais. Merci, tante. Tu connais ce monsieur? Très gentleman.
Tati Hulot s'en amuse, d'autant plus qu'il connaît bien ce monde-là pour y avoir grandi, même s'il a toujours nourri son côté saltimbanque et bohème, qui crée quelques désordres. Tati a retravaillé sur la plupart de ses films bien après leur sortie, parfois même en y ajoutant des scènes ou une nouvelle bande originale. Les Vacances de Monsieur Hulot, sorti à l'origine en 1953, a été remixé en 1960 et augmenté d'une scène en 1978. La scène du canoë requin a été tournée 27 ans après, sur la même plage, avec des acteurs portant des maillots de bain des années 50. Jacques Tati avait vu entre-temps Les Dents de la Mer de Spielberg et il a souhaité rafraîchir son film. Drôle sans le vouloir, Hulot est un personnage mélancolique, un être un peu à part pour qui rien n'est jamais vraiment familier, dont les aventures feront rire les grands et les petits à partir de 5 ans.
Mr. Hulot, I'm going. I've had such a good time. Goodbye. Bye, bye. I'm coming next year. You too, huh? Bye, bye.
Voilà. Au revoir, petite part.
Au revoir, chère madame. Merci.
Et surtout, donnez-nous de vos nouvelles.
Oui, hein, certainement.
Oui. Au revoir, monsieur.
Au revoir, madame.
Et c'est promis, hein, si vous passez par ça, vous venez à la maison.
Je pense bien.
Vous avez mon adresse. Oui, vous voyez pas la petite caca.
Au revoir, chère madame. Au revoir, dépêche-toi, voilà. Dépêche-toi. Au revoir. Au plaisir, monsieur. Oh. Mon adresse. Au revoir, monsieur. Au revoir, au plaisir.
L'atelier proposé ce 2 juin avant les vacances de Monsieur Hulot vous invite justement à explorer l'art sonore de Jacques Tati. Réservation indispensable comme d'habitude auprès de Photokino au 09 50 38 41 68 ou par email sur contact@photokino.org. Le 2 juin, dans l'après-midi, si vous avez de nouveau envie d'aller au cinéma, je vous conseille la séance de la 7e édition de Cours y vite, un programme de films composé par les enfants du club de programmation Cinétilt. C'est au théâtre de la Minoterie à partir de 17h. Paf, 1,50€. Vous pourrez y revoir, entre autres, deux films de l'Aterna Magica 2009. Den Hotplatti de Hermina Tirlova et Ailleurs de Nicolas Bianco-Levrin et Julie Rambeauville. Tout le programme sur cinétilt.org. Et vous avez décidément une chance incroyable si vous habitez à Marseille. Car si vous avez aimé les vacances de Monsieur Hulot, ou si vous êtes d'ores et déjà fanatique du cinéma de Tati, vous pourrez voir Jour de fête et Playtime, ces deux autres grands films, la même semaine, au cinéma L'Alhambra, l'autre cinéma du côté de l'Estac, qui fête ses 20 ans les 4 et 5 juin. Tous les renseignements sur alhambraciné.com.
Vous écoutez Radio Grenouille.
Et en juillet, c'est le bon moment pour se rafraîchir en salle de cinéma, tout en voyageant et faisant de nouvelles rencontres. Le FID Marseille accueille de nouveau la programmation Les Sentiers, qui réunit des films d'auteurs, d'artistes, d'animation, de fiction ou des documentaires pour tout public, enfants de plus de 6 ans compris. Plus de détails dans la prochaine émission.
Children.
children.
Après le cinéma, Caroline Guichard s'est jointe à nous pour nous donner l'idée de sortir jusqu'à Martigues et d'aller voir un spectacle en plein air. Caroline, en quoi consiste cette sortie ?
C'est en effet aujourd'hui, mercredi 26 mai, que commence l'Odyssée de Martigues. Et au programme de cette manifestation, le compositeur et directeur du Centre National de Création des Arts de la Rue, lieu public, Pierre Sauvageau, a imaginé un parcours musical disposé le long du littoral martégal. Durant 12 jours, sur le site préservé d'Éloron, pointe de Beaunieu à Martigues, chant harmonique, au sous-titre évocateur de marche symphonique pour 500 instruments éoliens et public en mouvement, nous invite à un parcours au cœur de la musique et de la nature. Pierre Sauvageau est avec nous. Pierre Sauvageau, bonjour.
Bonjour.
Alors, après un premier chantier de travail à Aurol, au festival bien connu sur l'île néerlandaise de Terschelling, vous ouvrez l'Odyssée de Martigues avec chant harmonique. Votre travail de compositeur est marié le texte musical avec le contexte d'écoute. Et pour cette nouvelle création, vous avez imaginé la digue comme une immense partition naturelle.
Oui, absolument. Ce qui m'intéressait, c'est de vraiment repartir à la fois de, comment dire, d'un sentiment de perception différent qu'on a quand on est libre de son écoute. Toute la musique classique est organisée sur l'idée, voilà, on réunit tout le monde en même temps, il y a un début, un milieu, une fin, et tout le monde applaudit à la fin. Là, ce qui est intéressant, c'est que il y a un parcours, donc le parcours va donner forcément le début, le milieu, la fin. Mais d'abord, on peut tricher, on peut revenir en arrière, et puis on peut aller vite, s'arrêter, se poser. Donc, ça peut durer entre quart d'heure et une demi-heure, et que l'auditeur participe à sa manière à sa propre partition, il la refabrique. Donc la notion de parcours pour moi était intéressante, je crois qu'elle correspond bien à l'ère du temps d'aujourd'hui où les gens ont envie à la fois d'être surpris, de suivre un projet d'artiste et en même temps ils n'ont pas envie d'être simplement des consommateurs.
Au-delà d'être un parcours, il s'agit bien d'une symphonie, c'est-à-dire d'une composition musicale à grande échelle composée de plusieurs mouvements. Mouvement d'ailleurs au nom évocateur, je crois avoir lu le déambulatoire pour un slalom entre 50 bambous, orgue et longue corde courante, le corridor des flûtes de Nantong, la pause pour harpe éolienne. Alors l'instrumentation de cette composition se modifie, entraînée par la force du vent. Comment concevez-vous l'effet d'équilibre et d'harmonie et les allures musicales au milieu de cet espace naturel soumis aux caprices du vent ?
Bah, écoutez, effectivement, on joue avec un aléatoire, mais c'est ça aussi qui fait la magie, peut-être le côté vivant du projet. C'est qu'un aléatoire, évidemment, le vent, il fait ce qu'il veut, mais enfin, quand même, on le connaît un petit peu, on connaît sa direction de base, on connaît ses allures habituelles, donc on fabrique, on invente un aléatoire. Et puis, donc, à la fois, chaque instrument est prévu pour sonner par vent doux, par vent moyen, par vent fort, et puis, il y a des instruments qui ont des hauteurs fixes, des notes, donc évidemment, ces notes-là, elles se répondent d'un instrument à un autre, donc on a à ce moment-là un effet d'une harmonie particulière, donc quand on avance mais on va changer, vous voyez, si vous avez un instrument qui fait un do, un instrument qui fait un ré et un autre un mi, l'un derrière l'autre vous allez entendre do, ré, mi, donc c'est aussi bête que ça, on va dire. Donc on a bien quand même un cheminement qui fait que on se promène dans une évolution musicale avec comme des symphonies, une première partie qui expose, une deuxième partie qui fait avancer, une troisième qui pose, par exemple c'est là où il y a des choses longues et on peut venir s'allonger au milieu de 24 grandes harpes éoliennes. Évidemment, là, on reste 2 minutes, ou on en reste 20, ou on danse sur place, chacun qui décide, pour arriver vers la fin, un final, où il y a une quarantaine de percussions qui tournent à la fois, et qui, évidemment, inventent une polyrythmie assez étonnante.
Et alors, parmi donc tous ces instruments, vous venez de citer les harpes éoliennes, je crois qu'il y a donc 499 autres instruments éoliens, pouvez-vous nous en décrire quelques-uns ?
Alors, effectivement, on n'est pas loin de 500 instruments, sachant que ça ne veut pas dire qu'il y a 500 types d'instruments différents, puisqu'au contraire, c'est souvent en ayant 30 fois le même instrument et en le changeant un petit peu ou en le mettant sur une longueur qu'on a un effet musical. On va dire qu'il y a une vingtaine de types d'instruments différents, donc une grande partie sont des cordes vibrantes, simplement des cordes qui prennent la vibration du vent et qui vont la transmettre à un résonateur. Donc les résonateurs, ça peut être des violoncelles, des tambours, ça peut être des caisses, les cordes peuvent être plus ou moins grandes, elles peuvent être en métal, elles peuvent être en ruban, on a comme ça toute une série de sons différents. On a tout ce qui est l'ordre des flûtes, donc avec soit en bambou, soit avec ces flûtes de Danton, qui sont des poteries chinoises, qui donc vont simplement comme mettre un biseau en face du vent et donc le faire souffler. Et puis il y a évidemment tout ce qui peut être de l'ordre des moulins. Donc des moulins, évidemment, il y a des hélices. Alors des hélices, il y en a plein de sortes. Il y en a des verticales, des horizontales et tout ça. Et vont chacune faire actionner des percussions diverses qui vont aller jouer sur des cloches à vaches, sur des lames de Glockenspiel, sur des tambours, sur des timbales, sur des gongs, etc. Donc on a comme ça un immense orchestre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve quasiment l'orchestration classique avec les vents, les cuivres, donc les instruments à vent, les instruments à cordes et les instruments à percussion. On est dans un instrumentarium relativement classique.
Et il y a également des artistes qui habitent votre œuvre, la danseuse Yendine Amour, les comédiens Gilbert Landreau et Farid Chebou. Quelles formes vont prendre leurs interventions?
Alors effectivement, nous avons quatre éoliens, les trois que j'ai cités, qui sont dirigés par un chorégraphe, Janis Jérémy. Alors avec cette chose très particulière, c'est des artistes et surtout il faut qu'ils ne fassent rien. Donc c'est pour ça que le casting était difficile, très difficile de trouver des artistes capables de rien faire. Non, il ne s'agit pas du tout de rien faire. Le fait, c'est que c'est pas des prouesses artistiques, c'est au contraire des gens qui habitent sur le site. C'est pour ça qu'on les appelle des éoliens. C'est des gens qui vivent sur place et qui vivent et qui le vivent et qui le font vivre. Parce que pour moi, ce qui est très important, c'est que au-delà du côté magnifique de l'installation, du côté bord de mer qui est évidemment passionnant, de la mécanique est évidemment très amusante à voir, tous ces instruments qui marchent tout seuls, l'aspect écologique bien sûr, dans l'air du temps, puisque il n'y a pas un gramme d'électricité sur le site, donc quand même c'est tout ça, c'est évidemment des tas d'aspects très positifs, mais en plus de ça, mon ambition, c'est que les gens rentrent dans une vraie écoute, comme quand ils sont au concert, comme quand ils écoutent leur Walkman, etc., qu'ils soient vraiment sur un moment d'écoute. Donc ces artistes sont là pour en permanence redonner le côté, sortir du côté anecdotique ou du côté sympathique, bricolo, écolo, mais d'aller sur... Il y a un moment d'écoute assez exceptionnel, toujours différent, toujours sensible, et je pense que c'est à ça qu'ils servent.
Et une écoute ludique également, puisque on peut s'amuser, notamment là, je pense aux familles, à faire des passages à l'aveugle, à passer, à faire le parcours en courant, ou à des rythmes différents, en fonction de l'allure du vent.
Oui, effectivement, ce qui est donc comme le public est libre, donc vous avez raison aussi de souligner les enfants, c'est vrai que là-dessus, voilà, c'est un concert dans lequel on n'est pas obligé de dire aux enfants tais-toi toutes les 30 secondes, et en plus ils peuvent courir entre les instruments, donc évidemment c'est un certain avantage, mais que chacun des mouvements du public va changer l'écoute, parce que effectivement, si vous mettez 30 instruments les uns à côté des autres, qui forment une sorte de mélodie, si vous passez très lentement, vous aurez une certaine mélodie, si vous passez en courant à l'envers, vous en aurez une autre. Et puis si le vent souffle plus fort, la mélodie va s'accélérer, ou même les notes vont changer. Donc en permanence, il y a un espèce de jeu entre soi-même, l'auditeur, les instruments qui ont été pensés pour ça, et le vent qui, évidemment, peut changer d'allure ou peut changer de direction.
Alors ce sont les premières dates de chant harmonique. Je voulais également vous demander sur quel autre territoire cette création sera-t-elle jouée?
Alors effectivement, c'est le tout début, et en plus, demain, jeudi, il y a même une nocturne
spéciale, hein, oui.
Parce que c'est l'arrivée de la pleine lune, donc oui. Pour d'aucuns qui me connaissent savent que la pleine lune fait partie de mes camarades, donc c'était pas possible de rater la pleine lune. Écoutez, là, on était effectivement, on fait des essais l'année dernière en Hollande. L'année prochaine, il y a déjà trois options très sérieuses. D'une part, de retourner en Hollande. Le même festival qui nous avait proposé de faire ces essais souhaite nous accueillir. On part la semaine prochaine aussi en Angleterre, faire des repérages pour le festival de Salisbury. Et puis, à Grenoble également, pour le mois d'avril prochain. C'est vraiment trois destinations, on va dire, probables.
Et du coup, vous modifiez à chaque fois la disposition de l'instrumentarium en fonction de l'espace où vous êtes, ou c'est la même partition symphonique?
Non, forcément, chaque espace invente, parce que d'abord il y a des particularités physiques qui font que voilà, à tel endroit ça sonne mieux, à tel endroit ça sonne moins bien. Donc là sur le bord de plage des Laurons, il y a certaines possibilités que j'aurais pas forcément à Grenoble ou à Salisbury. Donc c'est plutôt ça qui est amusant, de devoir recomposer à partir d'instruments qui à la fois jouent tout seul, et puis de recomposer à partir de la base de ces instruments, des notes qui sont dessus. Oui, c'est forcément une recomposition.
Pierre Sauvageau, je vous remercie beaucoup et vous souhaite donc de belles premières représentations de chant harmonique. Au revoir.
Merci, au revoir.
un caillou dans la chaussure.
Un caillou dans la chaussure.
Chers auditeurs marcheurs, si vous voulez déambuler, vagabonder dans la nature, aérer vos oreilles, savourer le temps qui passe et rêver, alors emmenez vos enfants et laissez-vous embarquer dans ce voyage sonore sur le chemin de la nature et de l'art. Chant harmonique, ça se passe à Martigues jusqu'au 6 juin. L'accès au parcours est libre et gratuit du lundi au samedi de 14h à 21h et le dimanche de 11h à 18h. Demain jeudi, comme vous venez de l'entendre, une nuit de pleine lune sur le site sera ouvert en nocturne jusqu'à minuit. Pour tout complément d'information, vous pouvez aller sur le site de l'Odyssée de Martigues, www.odyssée-martigues.org ou sur celui de lieu public, www.lieupublic.fr.
Merci Caroline. Un caillou dans la chaussure, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été proposée par Marie-Dominique Russis, Nathalie Guimard et Caroline Guichard. Merci à toutes les deux. Sébastien Gély, fidèle et attentif à la technique. Merci Sébastien. Et un grand merci à nos invités, Olivier Douzou, Jacques Tati et Pierre Sauvageau. Prochain et dernier rendez-vous avant les vacances d'été, saison de festival, le mercredi 23 juin à 11h sur Radio Grenouille. Vous pouvez réécouter les émissions sur la page de l'émission Un caillou dans la chaussure sur le site de Radio Grenouille, www.grenouille888.org. À bientôt.